Marvel, la fabrique des super-héros. Avec Charline Roux.
10 ans d'existence pour le MCU, 10 ans de péripéties susceptibles d'accélérer le vieillissement cutané et de multiplier les cheveux blancs et les problèmes articulaires. Et pourtant, nos héros ne prennent pas une ride, au propre comme au figuré. Ils restent physiquement affûtés et ancrés dans une réalité dont les problématiques ne sont pas sans rappeler certaines actualités que nous, communs des mortels, sommes amenés à traverser.
Captain, beaucoup de gens vous considèrent comme un héros. Mais certains préfèrent le mot justicier. Vous vous êtes arrogé des pouvoirs illimités et vous avez agi sans aucun contrôle. Et ça, le monde ne peut plus le tolérer.
Chacun des héros de Marvel, en tout cas dans les bandes dessinées à l'origine, est né dans un contexte historique particulier. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont réussi à maintenir au cinéma? Est-ce que chaque personnage correspond à un contexte actuel, Philippe Gage? Je rappelle que vous êtes journaliste au Point Pop et co-réalisateur du documentaire Marvel Renaissance.
Je pense que Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, s'est attaché à faire en sorte que les films perpétuent une sorte de tradition très ancienne des BD Marvel, qui est d'être en résonance avec leur propre époque.
Martin Winkler, romancier et essayiste, auteur de super-héros aux éditions EPA.
Mon plaisir, c'est précisément de les voir refléter le monde dans lequel je vis. Alors avec quelques années de retard, des fois. Mais les comic books allaient plus vite que les films. Et ils vont toujours plus vite que les films. Donc c'est ça, c'est de voir un genre culturel qui est un genre extrêmement ancré dans la réalité, extrêmement ancré dans le présent et qui reflète plein de choses de manière effectivement non spectaculaire quand c'est pas au cinéma, mais de manière qui peuvent être très très importantes pour les lecteurs et les lectrices. Je suis content de vivre dans un monde dans lequel il y a ce genre artistique et que ce genre artistique ait pris une telle ampleur au cinéma, avec des messages aussi engagés et aussi engagés dans le sens de la justice sociale, parce que c'était pas évident. Ils auraient pu avoir une attitude beaucoup plus neutre. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le MCU n'est pas neutre.
Philippe Gage.
C'est des petits clins d'œil comme ça du Marvel Cinematic Universe au monde qui évolue, dans lequel on vit. Je pense à Captain America, Winter Soldier, qui au travers de son intrigue, où donc les méchants du film, en gros, ont créé une espèce de super satellite qui va écouter tout le monde sur la Terre pour repérer à l'avance qui sont les gens qui risquent de comploter contre le gouvernement. Et ben voilà, bon bah là, on est clairement dans le film est sorti en 2014, on est juste après l'affaire Snowden et le scandale des écoutes de la NSA. Donc Marvel surfe comme ça assez habilement sur des thématiques très actuelles dans ses films.
Ce qui est assez fort pour le capitaine, parce que rappelons que c'est un personnage qui est censé être né en 1917, y compris dans les films. Donc, c'est-à-dire que l'évolution, le passage du temps se fait aussi sur ce personnage en particulier.
Oui, Captain America, en effet, c'est vraiment un personnage d'une autre époque, c'est un personnage d'avant-guerre, mais il y a eu, Marvel Comics et les films ont repris cette idée, ont eu l'idée de génie de le faire congeler dans la glace à la fin d'une mission, et d'être redécongelé 50 ans plus tard, à notre époque, ou 70 ans plus tard à notre époque. Et donc, et Captain America, il incarne vraiment cette Amérique progressiste qui va, d'ailleurs, dans les bandes dessinées, dans Civil War, et ça a été un petit peu repris dans le film, mais pas tellement, qui incarne un peu l'Amérique de Roosevelt et de ses valeurs, plutôt que l'Amérique de Bush. Je dis Bush parce que la bande dessinée Civil War, dont s'est très librement inspiré le film, elle a été publiée au milieu des années 2000, et c'était très clairement une critique de l'Amérique post 9/11 et de certaines lois liberticides qui avaient été faites voter sous la présidence du président Bush.
Jérémy Manès, traducteur de comics, auteur, metteur en scène et comédien de théâtre.
Captain America, très clairement, c'est la poutre maîtresse de l'univers Marvel. C'est le modèle, c'est celui qui toujours fera le bon choix et sera le plus droit. Captain America, il défend l'idéal américain même quand l'Amérique ne correspond plus à cet idéal. C'est ça qui est très intéressant par rapport à la genèse de Captain America, où il affrontait les nazis, où c'était un outil de propagande. Et maintenant, il est toujours là pour contester la façon dont peut évoluer l'Amérique. Et très récemment, moi, j'ai traduit une saga qui s'appelle Secret Empire dans les BD. où Captain America est remplacé par une version nazie de lui-même et où il réussit à convaincre tout le monde de lui donner les clés du gouvernement, etc. Et il se retrouve à avoir les pleins pouvoirs. Et la BD où on lui remet le plein pouvoir sur les marches du Capitole, il est sorti le jour où Donald Trump prêtait serment devant le Capitole.
New York. Washington. La Sokovie.
D'accord, ça suffit.
Les gens ont peur, Captain.
Renan Cros, journaliste chez Cinématiseur et enseignant en histoire du cinéma.
On a beaucoup dit que le premier Avengers, et notamment, était un questionnement de l'Amérique post-11 septembre, de l'Amérique aussi en proie au questionnement terroriste. C'est-à-dire, toutes les images de destruction de villes dans les Marvel sont vraiment des réponses aussi à un trauma américain. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment l'Amérique d'Obama a apaisé ce trauma-là, et que le retour de l'Amérique de Trump-là est en train d'exorciser, en tout cas d'exciter quelque chose qu'on retrouve vraiment dans le Black Panther de Ryan Coogler, c'est-à-dire un questionnement identitaire qu'il n'y avait pas avant dans les Marvel. J'ai l'impression que quand on regarde le Captain America, le premier, c'est un film beaucoup plus, hein, donc c'est un film qui se passe dans les années 30-40, il y a un côté Seconde Guerre mondiale, les nazis, tout ça. Et à partir du moment où on bascule dans le deuxième volet, quand il est donc au présent, eh ben, il y a un questionnement sur l'état de l'Amérique, la paranoïa. Ça devient des films de plus en plus années 70, quelque part. Et ça, c'est très amusant et très intéressant de voir à quel point l'imaginaire de Nouvelle Hollywood, c'est-à-dire la paranoïa, la crise d'identité, la crise politique, devient, en tout cas, est récupérée par, en fait, une industrie du spectacle. Et ça, c'est vraiment toute l'ironie aussi de Marvel, c'est qu'elle est capable d'avaler, en fait, tous les symboles et toutes les idéologies contestataires.
Jérémy Maness.
C'est le talent de Kevin Feige qui a un peu chapeauté tout l'univers Marvel au cinéma. Il a réussi à se concentrer sur ce qui faisait vraiment l'intérêt de chaque personnage et de voir ensuite dans l'actualité, etc. Je pense par exemple aux méchants qu'ils ont pris pour le dernier Spider-Man. Spider-Man Homecoming, le personnage de Michael Keaton, où ils en ont fait un ouvrier, voilà, qui se retrouve à être confronté un peu aux grosses boîtes qui arrivent et qui cassent tout, etc. Ce à quoi tout le monde peut s'identifier. Et même quand Infinity War, la problématique que pose Thanos de surpopulation, etc., c'est une vraie question qu'on peut se poser, quoi.
Olivier Delcroix, vous êtes l'auteur du livre aux éditions Hobeck, Les super-héros au cinéma. Si je vous demande le super-héros du Marvel Cinematic Universe qui représente le mieux notre époque, c'est-à-dire qui représente le mieux 2018.
Et c'est Black Panther, pour moi. On est dans quelque chose qui est totalement subtil. Le méchant n'est pas si méchant que ça. Le bon n'est pas si bon que ça. Et finalement, cette représentation du monde est parfaite. Et puis cette idée, effectivement, qu'au cœur de l'Afrique, on a un joyau et l'idée technologique, futuriste, brillantissime. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le partage avec l'homme qui est ce qu'il est, qui va trahir ? Ou est-ce qu'on le garde pour nous et voilà, vivons heureux, vivons cachés ? Et je trouve que toutes les questions qu'on se pose actuellement dans le monde d'aujourd'hui collent parfaitement à ce film qui je trouve effectivement capture c'est qu'un précipité de l'époque, et je trouve que Black Panther est vraiment l'exemple d'un des meilleurs films qu'on ait fait qui représente l'époque.
Mélanie Wanga, vous êtes cofondatrice de Quad Meuf et du podcast Le Chip. En quoi le film Black Panther est important aujourd'hui ?
Déjà, pour Hollywood, il est important dans le sens où il a cassé encore une fois ce préjugé où on dit un film 100% avec des acteurs noirs, au casting majoritairement noir, ça va pas marcher parce que les personnes blanches et les personnes non noires ne vont pas aller voir ces films. En fait, c'est une vraie croyance à Hollywood, c'est aussi une vraie croyance dans le cinéma, dans le monde entier, international. Et du coup, Marvel avait, je pense, un peu peur avant de sortir ce film et s'est dit, oulala, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va vraiment marcher? Ils ont été assez malins parce qu'ils se sont vraiment appuyés sur les réseaux sociaux et la communauté noire qui est très présente sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup du Black Twitter et pour eux, ça a été vraiment un outil marketing très très fort. Ils ont vraiment marketé ça comme, regardez, on vous offre un super-héros noir qui n'est pas un peu métissé, qui est vraiment noir, qui vit en Afrique et avec des actrices noires, vraiment ce casting-là. Et en plus, le casting était de haute volée, quoi. On a quand même Michael B. Jordan, on a quand même Lupita Nyong'o qui est oscarisée. Vraiment des très très bons acteurs. Et je pense qu'ils ont vraiment réussi leur coup dans ce sens-là parce qu'on les attendait un peu au tournant. Mais l'importance en termes de représentation pour les minorités noires qui n'ont pas l'habitude de se voir dans des rôles de super-héros, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment prendre en compte, quoi.
À présent, nous consacrerons nos efforts pour que l'humanité tout entière comprenne que son salut passe par la fraternité. Aujourd'hui, plus que jamais.
Symboliquement et idéologiquement, c'est un film extrêmement important.
Martin Vinclair.
Les Afro-Américains ont deux héros maintenant, c'est Barack Obama et Black Panther.
Philippe Gedge, si on fait un peu de prospection, dans 10 ans, dans 20 ans, les héros du MCU, vous les voyez où et comment?
Imaginez où en seront les héros Marvel dans 10 à 20 ans. C'est une problématique fondamentale pour le studio Marvel, à laquelle, je pense, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, est en train vraiment de réfléchir à fond les ballons. Je pense que quoi qu'il arrive, dans 10 ans, tous les personnages tels qu'on les connaît auront totalement changé. Ils seront incarnés tous par des acteurs différents. Et je pense que on aura encore plus d'interconnexions avec de nouveaux personnages qu'on ne connaît absolument pas encore, puisque Marvel a vraiment, le studio Marvel a fait la preuve qu'ils étaient capables de sortir de terre des personnages complètement inconnus du grand public, comme les Gardiens de la Galaxie ou Black Panther ou Doctor Strange, et d'en faire vraiment des héros connus du monde entier. Donc je pense qu'il va y avoir d'autres nouveaux arrivants dans cet univers qui vont l'enrichir. Il va y avoir d'autres interconnexions. Peut-être que Marvel va se risquer à expérimenter davantage encore avec son bestiaire, peut-être faire voilà des peut-être aller encore plus franchement dans la comédie, dans un univers loufoque, et peut-être tester des réalités parallèles aussi. Je sais pas, moi, ils pourraient, pourquoi ne pas essayer d'adapter aussi au grand écran leur série Marvel Zombies, qui était vraiment une idée très amusante. Et voilà, après, je pense que le Marvel Cinematic Universe, dans 10 ans, il sera encore plus il sera encore deux fois plus nombreux, ça sera plus du tout les mêmes têtes, il y aura eu d'autres expérimentations, et j'espère en tout cas qu'ils seront toujours là et qu'ils auront profité de leur succès pour essayer d'aller vers un peu plus encore un peu plus de drame, moi j'espère, et de sérieux.
Martin Vinclair.
L'an prochain, on a Captain Marvel. Et Captain Marvel, qui est quand même le Joker que le MCU nous a préparé en silence comme ça, et juste avant la deuxième partie de The Avengers Infinity War, et pour aussi résoudre ça, hein, c'est ça que veut dire le truc qu'il y a sur le...
La scène de post-générique.
C'est ça, c'est que peut-être que la super-héroïne, et c'est une femme, la super-héroïne de l'ère Trump, c'est Captain Marvel.
Ce serait un joli pied de nez, hein. Moi ça me plairait beaucoup.
Marvel. La fabrique des super-héros. Une série originale proposée par Création Collective et France Inter.